session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 9 juillet 93 à Saint-Jeudard.
C'est la dernière journée, donc il fait beau. Il faut que nous essayions de voir comment notre intelligence humaine, qui a soif de vérité, peut, par l'élan même de cette soif de vérité, découvrir l'existence de la nécessité de poser un être premier qui soit vérité. Oui, c'est la seconde voie complétant la première. Elles sont différentes, mais elles se tiennent. Je vous le disais hier, c'est dans cette soif de vérité qu'il y a ce dépassement de l'amour d'amitié. Une vérité, une soif de vérité à travers l'amour. Cette seconde voie implique également l'amour. Mais elle est plus immédiatement l'appétit profond de l'intelligence, l'appétit de vérité. C'est ce qui structure toute notre personne humaine, cette soif de vérité. On doit tout le temps revenir à cette soif de vérité. Vérité humaine, spéculative et pratique. La vérité implique les deux. Mais évidemment, c'est plus le point de vue de ce qu'on appelle la vérité contemplative, donc spéculative. Vous savez bien comment Aristote commence la métaphysique. L'homme recherche la vérité pour elle-même. C'est très fort. Et je crois, face à l'hégélianisme, il ne faut jamais oublier ça. Et il donne comme signe, on aime de voir, de regarder. L'amour et la joie qu'on a de regarder. L'intelligence cherche la vérité pour elle-même. C'est très fort. Et c'est très grec. On a fait des oppositions entre le grec et le sémite qui sont intéressantes, mais il ne faut pas les exagérer trop. On dit que le sémite, c'est l'ouïe. C'est la foi. Il écoute. Et le grec, il voit. Le grec a soif d'indépendance, d'autarcie. Et c'est la connaissance qui me donne cette autarcie, cette indépendance, cette autonomie, ce qui est vrai. Oui, dans les domaines où vous avez poussé votre enquête de recherche de la vérité, on acquiert une certaine indépendance. Dans les domaines où on n'a pas fait cette enquête, on est toujours dépendant de l'opinion des autres. Ce qui est la pire dépendance. Quand on aime, qu'on est dépendant de quelqu'un, ça va, puisque c'est dans l'amour. Mais quand on est dépendant, on dépend de l'opinion des autres parce qu'on n'a pas fait une enquête de vérité, c'est très gênant. l'intelligence en état de dépendance, alors que l'intelligence veut l'indépendance. La seule dépendance que l'intelligence peut accepter sans être diminuée, c'est la dépendance à l'égard de la foi. Parce qu'alors, c'est une dépendance à l'égard d'une lumière qui dépasse toutes les autres. C'est la vérité première qui se révèle à nous. C'est ce que saint Thomas rappelle quand il précise ce que la foi surnaturelle est. Elle est spécifiée par la vérité première se révélant. Mais se révélant dans l'obscurité totale, on n'a pas d'évidence de la foi. On n'a qu'une certitude. C'est par l'amour que l'intelligence accepte ce tunnel où elle ne voit rien. Et elle ne voit rien par amour pour la vérité. Pour une vérité qui se révélera. Si la foi n'était pas ordonnée à la vision béatifique, la foi serait tyrannique. C'est tyrannique d'obliger l'intelligence d'adhérer sans voir. Il n'y a que Dieu qui peut demander cela dans l'amour. En vue de la vision béatifique, on croit pour la vision béatifique et uniquement pour cela. C'est merveilleux. Il y a un petit article de saint Thomas qui est merveilleux, de la nécessité de la foi. Et saint Thomas montre que la nécessité de la foi, c'est pour orienter sa vie vers la vision béatifique. C'est pas du tout pour connaître, voyez, l'homme, l'univers, non. C'est pour adhérer au mystère de Dieu dans sa vie propre. C'est-à-dire le mystère de la très sainte Trinité. C'est le mystère de la très sainte Trinité qui est au-delà de tout ce qu'on peut connaître par soi-même. Alors, c'est cela qui est si important, de voir le lien, la continuité et la discontinuité, la différence et le quelque chose de commun qui existe entre cet appétit de vérité et la foi. Seulement cet appétit de vérité qui légitime la foi. Oui, si j'ai un appétit de vérité qui est toujours plus grand, j'ai soif de voir, de connaître, et que je sais que quelqu'un est plus grand que moi. Il est Dieu. Et qu'il vient vers moi, je l'accueille. Et la foi, c'est l'accueil à une lumière supérieure de notre propre lumière. La foi, c'est cette attente à une lumière qui dépasse notre propre lumière. Vous voyez, il y a une continuité du côté de la lumière. Et il y a une différence totale du côté de ma manière de vivre de cette lumière. Je vis de la lumière philosophique, une lumière que j'acquiers, je deviens philosophe, je deviens intelligent n'oublie jamais ça. Donc elle veut dire, je suis pas intelligent, c'est espèce d'imbécile. Tu peux l'être. On devient intelligent. Et une session philosophique est faite pour qu'on devienne intelligent. Alors la lumière de la philosophie, elle est évidente. J'ai l'évidence que je deviens intelligent. Et c'est pas de l'orgueil. Dire que je suis incapable de voir que je deviens intelligent, c'est de la bêtise. Alors comprenez bien, c'est pas de l'orgueil, parce que l'intelligence est lumineuse. Alors on sait très bien qu'autour de nous, des quantités de gens qui ne cherchent pas la vérité. Alors je ne vais pas, par souci d'humilité, leur demander et mendier la vérité à ces gens-là. Non. Ce serait stupide, ce serait de la bêtise. Aller mendier la vérité à tous ceux qui sont à la télévision, c'est pas leur souci. Ils veulent plaire. C'est le plus d'abandonnés, le plus d'hommes qui écoutent la télévision, d'abonnés, c'est la seule chose qu'ils cherchent, la quantité, pas la vérité. Alors, n'allez pas mendier la vérité là. Vous allez mendier la vérité au contemplatif. Allez dénicher dans une trappe un vieux contemplatif. Allez dénicher dans une chartreuse un vieux contemplatif. Ils sont toujours vieux, puisque selon l'Apocalypse, c'est des vieillards. Ils sont 24. Toujours. Ça succède. Toujours 24. Chiffre symbolique. C'est-à-dire 24, 2 fois 12. 12 d'Ancien Testament, 12 de Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament assume l'Ancien. Il a le droit de regarder l'Ancien Testament pour lui-même. Il assume l'ancien. Cette recherche de la vérité au plan philosophique, on en a la certitude et l'évidence. C'est pour ça qu'on est séduit par cela. Il y a une séduction qui est bonne. La recherche de la vérité. Tandis que, quand je suis dans le régime de la foi, j'accepte d'avoir les yeux bandés. En sachant, dans l'amour, que je suis conduit par quelqu'un qui est plus lumineux que moi. Alors, plus j'aime la vérité, plus je suis proche à accepter de donner la main à quelqu'un qui voit plus que moi. Parce que je désire atteindre la vérité. Et le désir de la vérité, c'est ce qui prépare le plus à la foi. Et celui qui a soif de la foi, comme dit saint Augustin, a la foi. C'est ça qui est admirable. Puisque je n'ai pas l'évidence d'avoir la foi. Mais j'ai la certitude d'avoir la foi. Parce que je désire croire. Et le désir de croire me donne la certitude de la foi. C'est très très important de se rappeler ça dans un monde comme le nôtre, où tout baptisé a la foi. C'est pour ça qu'il faut maintenir le baptême des enfants. Il perd la foi s'il commet une faute contre la foi. C'est-à-dire qu'il dit « je ne veux pas croire ». C'est stupide de croire. Celui qui suspend son jugement ne perd pas la foi. C'est très important de se rappeler ça, parce qu'on est dans un monde où des quantités de gens ont été baptisés et non pas l'expérience vivante de la foi. Alors ils croient qu'ils ne l'ont plus. Alors qu'ils l'ont, elle est cachée. Dieu est un Dieu caché. Je pourrais dire la foi est un don caché. Il faut le découvrir. Je dis ça parce que nous voulons regarder maintenant cette chose si grande de la soif de vérité. C'est tellement important d'éveiller les hommes qui sont autour de nous, de les éveiller dans cette soif de la vérité. Ce n'est pas une apologétique, vous voyez. L'apologétique, on en a par-dessus la tête. Il n'y a pas d'apologétique dans l'Évangile. Il y a le témoignage. C'est très différent. La soif de vérité fait que j'entreprends cette voie périlleuse qui est la philosophie. C'est un petit sentier qui se raccourcit. C'est pas une autoroute. L'immense avantage du petit sentier, c'est qu'il n'y a pas de limite de vitesse. C'est extraordinaire, ça. Alors, le petit sentier, c'est... Alors, si on a un aigle qui est là et qui veille sur nous, on peut avancer. La recherche de la vérité nous fait prendre cette voie périlleuse qui est la philosophie. La grande route, c'est la science. Ce dialogue au début du concile entre un laïc que je connais bien, celui qui me l'a raconté. Lui qui a lancé l'Institut de la vie, professeur à la faculté de médecine. D'un laïc et d'un laïc professeur en faculté. Révérendissime père, je sais, mais je crois qu'il y a assez de savants dans l'univers maintenant. Il y en a assez. Que l'Église au début ait donné la chiquenaude, très bien. Mais maintenant, il y en a assez. Il y en a même peut-être trop de chercheurs. Il manque des vrais philosophes. Il manque des saints. Alors le révérend Dimper lui dit, « Ah, vous croyez ?» Il a dit, « J'en suis sûr. » C'est beau comme dialogue. La recherche de la vérité. Le savant doit rechercher la vérité, c'est sûr, mais c'est une vérité relative, toujours, il le sait. Dès qu'il fait un peu de critique de sa science, il sait bien. Ce sont les possibles. Le savant n'atteint pas l'âme humaine et l'esprit. Or, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la vérité par rapport à l'esprit. rapport à l'âme humaine, par rapport à la personne humaine. C'est ça qui m'intéresse, avant tout. Savoir ce pourquoi je suis fait. La recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité me conduit à la philosophie première. Qu'est-ce que c'est que l'être ? À analyser l'être. Pour connaître l'esprit. De l'être. De la philosophie de l'être. Entrer dans la philosophie de l'esprit. Comprendre comment la vérité est la qualité de mon intelligence. Mon intelligence est bonne quand elle est dans la vérité. Et ce n'est que quand je suis dans la vérité que mon intelligence est qualifiée. C'est une bonne intelligence. C'est une intelligence qui atteint ce pourquoi elle est faite. Une intelligence errante, c'est une intelligence qui va à droite, à gauche, à droite, qui ne cherche plus la vérité, qui cherche à s'informer uniquement. Où en est le progrès scientifique ? Quelle est la dernière découverte ? On s'informe. C'est très bien de s'informer. Se cultiver. Mais ce n'est pas l'information qui qualifie mon intelligence. Elle l'encombre. On a tous, du moins tous ceux qui recherchent un peu la vérité, ont tous fait cette petite expérience. On a une petite intuition. Et on veut passer de cette intuition à la vérité. Alors, honnêtement, on regarde si d'autres personnes ont parlé de ce sujet avant, et on voit que beaucoup de personnes en ont parlé, alors on fait son information, et on voit qu'il faut lire 100 bouquins avant de pouvoir avancer un tout petit peu, et on se fatigue. Ayant regardé les opinions de tous les autres, on ne sait plus très bien où se trouve la vérité. Extraordinaire ça, on est dans ce monde-là, dans le monde des informations. Et on est fatigué, très fatigué. Les intellectuels sont très fatigués. Faut pas leur dire, mais ils sont très fatigués. Parce que l'information ne rajeunit pas. Elle fatigue. Il faut pourtant chercher la vérité inlassablement. Et plus ça monte, plus il faut la chercher. Alors on arrive quand on cherche la vérité. Et quand on cherche la vérité à travers tout, on arrive nécessairement à se poser la question, après avoir étudié ce qu'est la personne humaine, étudié la noblesse de l'intelligence. Après avoir étudié la grandeur de ma volonté et de ma capacité d'aimer, d'avoir compris qu'il y a en moi ces deux grands appétits, aimer et chercher la vérité, et que l'amour va plus vite, mais l'amour risque toujours un peu de déraper à cause de la passion. Et c'est pour ça que l'amour a absolument besoin de la recherche de la vérité. Et plus je vais loin dans l'amour, plus j'ai besoin de la recherche de la vérité. C'est une émulation merveilleuse. Quand j'ai en moi cette soif de vérité, et que j'ai en moi, et que je sais cette capacité d'aimer, alors j'aime ceux qui recherchent la vérité. Et j'essaie d'être leur ami, parlez ce professeur de biologie. C'est palpitant la biologie. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait des progrès dans ce siècle. Je crois que c'est la science qui a fait le plus de progrès. Et on sait très bien que si on s'adonne à la philosophie, on ne peut pas s'adonner à la biologie avec la même force. On ne peut pas s'adonner aux mathématiques avec la même intensité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut devenir l'ami des biologistes. Autant que possible, le meilleur. Qualitativement, ne regardez pas le petit biologiste du coin qui répète. Non, non. Essayez d'atteindre le meilleur, comme pour les mathématiques. Il faut se faire des amis pour comprendre ces différents domaines où on ne peut pas tout connaître. Vous savez qu'avant, la licence en philosophie scolastique s'intitulait De omnirecibili. Je trouve ça admirable. Au sujet de toute réalité connaissable. Connaissable au niveau scientifique. Voyez ça aujourd'hui. La licence de philosophie. C'est impossible. Le progrès des sciences ont purifié le regard philosophique. Le progrès des sciences. Il ne s'agit pas d'assimiler tout, ce serait impossible. Le progrès des sciences montre aux philosophes qu'il y a quelque chose qu'il est seul à pouvoir atteindre, l'esprit humain, le cœur de l'homme. Et ça, le mathématicien ne pourra jamais. Le physicien ne pourra jamais. Le biologiste ne pourra jamais. Tous ces hommes sont au niveau du conditionnement. Ils regardent le comment de l'homme. Et c'est toujours du côté de la matière. Évidemment, le mathématicien regarde, comme disaient les anciens, Thomas d'Aquin, une matière intelligible. C'est pour définir le matheux. La matière intelligible. Le domaine des possibles, l'être mathématique, c'est pas un être réel. L'être mathématique n'existe que dans l'intelligence du mathématicien. Tant qu'il est pèlerin sur la terre, au ciel, il n'y aura plus de mathématiques. Quand on dit ça à un matheux, il pleure. Au ciel, il n'y aura plus le petit coin des mathématiciens. Non, non, non. Les mathématiciens, c'est pour la terre. De temps en temps, s'évader de cette terre si triste. Alors on s'évade dans les mathématiques, dans les possibles. Si le monde était autre chose, ce sont les possibles. Les vrais matheux, hein, les vrais. C'est du reste admirable. Des constructions étonnantes. Mais c'est des constructions du possible. Et le biologiste, comme on dit méchamment, il faut qu'il tue le vivant pour l'analyser. Et c'est vrai, l'analyse le sent. Mais en essayant de le saisir, tout proche de la vie, mais dès que le sang quitte le vivant, il meurt. Là, c'est juste, le sang n'est vivant que dans l'homme. Dès que je fais couler une goutte de sang, en moi, il est le sang est vivant, tout proche de l'âme, comme disaient les anciens. L'âme est dans le sang. C'est métaphorique, hein, puisque l'âme n'est pas... Elle informe le sang. Je crois qu'en effet, que l'âme informe le sang. Et c'est le sang qui exprime le mieux ce qu'est le vivant. De façon très étonnante, de façon extraordinaire. Il y a une proximité. Le biologiste n'étudie que le vivant à travers la matière vivante. Et c'est pour ça qu'il a toujours la tentation de ramener la vie à la matière et de ramener l'esprit à la matière. Ce que font des savants, très intelligents comme savants, mais peu intelligents comme hommes. Un savant biologiste qui ramène l'esprit à la matière est un homme triste. Je ne dis pas un triste homme. Je me souviens d'un des disciples de Monod qui faisait partie des séminaires de Monod. Et Monod ne prenait pour ses séminaires que ceux qu'il estimait capables d'avoir le prix Nobel. Bonne sélection. Et ce disciple, cet élève, était profondément croyant. Et il m'a dit, quand j'ai assisté au cours inaugural de Monod au Collège de France, j'ai pleuré. Parce que j'ai entendu la manière dont Monod parlait de la religion et de l'esprit. Il n'avait rien compris. Cette histoire tragique, hein. Je dis ça, c'est parce que c'est intéressant de voir ça. Je l'ai su par une sœur de Cluny, son épouse israélite. Elle est morte du cancer, je crois. Toujours est-il qu'elle est hospitalisée à Cluny. Elle avait demandé d'être hospitalisée dans un hôpital où il y avait des religieuses. Première chose qu'elle demande à la religieuse, sachant très bien qu'elle était condamnée, est-ce que vous ne pourriez pas tous les jours venir réciter des psaumes auprès de moi? Et puis à la fin, quand elle était tout proche, est-ce que vous ne pourriez pas demander qu'on dise une messe pour moi? Alors la pauvre religieuse, elle était, savait pas quoi faire quand elle est morte, avertir ça au professeur Monod. Elle lui a dit, je crois que je dois vous le dire. C'est un peu son testament. Elle a demandé qu'on dise une messe pour elle. Alors Monod s'est effondré. Mais elle était incroyable. Elle était athée. Mais pas du tout. Dès qu'elle est entrée ici, elle a demandé de réciter des psaumes. Alors, elle a dit, j'étais auprès d'elle et je n'ai rien compris de ce qu'elle était. J'étais donc un tyran. Mais l'âme religieuse d'Israël, près d'un baptisé agnostique, disant ouvertement dans les rencontres de Genève, les rencontres internationales, éduquer un enfant ou dresser un chat, c'est la même chose. Cette recherche. l'homme. Je dis bien l'homme. Philosophe. Et comme la philosophie est au service de l'homme, c'est bien l'homme se pose la question. Existe-t-il un être premier au-delà de tout ce que je peux constater, au-delà de toute expérience visible? Je crois que cette interrogation est capitale. Or, cette interrogation, on doit se la poser, même si on est croyant. La foi ne supprime pas la nature. La foi n'enlève pas l'appétit de l'intelligence à découvrir la vérité. Vous voyez, c'est très curieux et je crois que c'est très important de comprendre cela. L'homme qui recherche la vérité, il monte tout le temps. Il arrive à un sommet. Où il se pose la question sérieusement, comme la grande question humaine, existe-t-il un être premier dans la recherche de la vérité? Cette voie royale qui est la recherche de la vérité, c'est la noblesse de l'intelligence, c'est la noblesse de l'homme, l'intelligence. Il se pose la question. Grande interrogation. Et là, il touche les limites de son intelligence. Mais en touchant les limites de son intelligence, il voit qu'il peut dépasser cette limite. C'est ça qui est étonnant. Il peut dépasser cette limite. On va voir comment. Et c'est là où il est tout proche de la foi, qui est la lumière qui vient d'en haut. Une lumière verticale, pour employer le langage de Monseigneur, du cardinal. Là, il n'y a que la foi qui est verticale. Mon intelligence humaine n'est pas verticale, c'est pour ça. C'est une montée. C'est une montée avec des petits moments d'arrêt, hein. 5 jours de montée, l'ascension, premier jour, deuxième jour, on arrive là. On arrive là. Et la foi est une lumière divine. Alors, j'ai cette lumière divine dès mon baptême. Tous ceux qui sont baptisés ont cette lumière divine. Mais peut-être enfouie. À cause de l'éducation, à cause de quantité d'obstacles. Cette lumière peut-être complètement obnubilée. Alors, j'ai la foi en premier lieu. J'ai la recherche intellectuelle en premier lieu. Et la foi est comme enfouie. Mais quand j'arrive à ce point, je peux m'ouvrir à la foi. Je ne peux pas faire plus. J'attends. Je m'ouvre. Et je sais que cette foi est une lumière gratuite. Que je l'ai peut-être en moi, mais que je ne l'ai jamais exercée. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Je peux, l'inverse, être un croyant, n'avoir jamais fait de métaphysique de ma vie. Ça arrive dans des milieux très chrétiens. J'ai la foi. J'ai exercé la foi. Alors, j'ai la tentation de dire, j'ai la foi, je n'ai pas besoin d'un métaphysique. Je n'ai pas besoin de la philosophie première. J'ai la vérité totale pour la foi. C'est vrai, j'ai la vérité plénière, puisque j'ai la vérité que Dieu me donne. Attention, la foi réclame la métaphysique. Pour ceux qui le peuvent. Vatican II, Vatican I, dit la foi, loin de supprimer cette démarche, la réclame, si je peux le faire. Mais ça, c'est très important. Et alors, il y a un moment de rencontre qui est toujours très impressionnant. Et ce moment de rencontre, c'est lorsque l'intelligence humaine se pose la question: existe-t-il un être premier? Et je dis, à l'intérieur de cette interrogation, c'est ça qui est très étonnant, à l'intérieur de cette interrogation, qui est l'interrogation de l'homme, de la personne humaine, qui est un dépassement de la philosophie. D'une certaine manière, la philosophie repose sur l'expérience. Or, je n'ai pas l'expérience de Dieu. Donc c'est un dépassement de la philosophie. C'est l'homme qui se sert de la philosophie pour la dépasser. C'est l'homme qui saisit les limites de sa philosophie. La philosophie regarde tout ce qui est l'expérience. Et qui se pose la question en homme, en tant qu'homme, je veux savoir si je suis source de mon être, ou s'il y a nécessairement une source de mon intelligence et de mon être. C'est pour ça que cette question est si importante. Et il faut comprendre que cette question exige que l'homme comprenne que la philosophie est au service de l'homme et non pas l'inverse. Alors j'interroge, et cette interrogation elle est très grande. Vous voyez, Heidegger dit que ce qu'il y a de plus grand, c'est l'interrogation: qu'est-ce que c'est que l'être? Et je dis non, ce qu'il y a de plus grand, c'est, après avoir analysé l'être, existe-t-il un être premier? C'est pas l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être qui est le plus grand, parce que l'être c'est pas Dieu. L'être c'est moi, c'est vous, c'est le chien, c'est la chose, c'est l'être. L'être je le connais, c'est ma méta-expérience, c'est l'éveil de mon intelligence. Je me pose la question: y a-t-il, existe-t-il un être premier? Et c'est ça qui est l'interrogation de l'homme comme homme. Dans cette interrogation, l'intelligence, j'allais dire, comprenez bien, elle est archi-tendue. C'est l'appétit de l'intelligence dans son ultime moment, dans son moment suprême. Or, cet appétit de l'intelligence, à la fois, nous montre sa qualité et sa limite. Sa qualité, parce que pour se poser cette question, il faut justement avoir un très grand sens de la vérité. Il faut accepter que la vérité est au-delà de nous. Et je crois que ça, c'est la noblesse suprême de l'intelligence. Si je dis que la vérité est uniquement en moi, je fais l'inventaire de mes connaissances. Et dans l'inventaire de mes connaissances, je ne vois pas Dieu. Si je me pose la question, c'est parce que justement, dans la noblesse de mon intelligence, qui possède ou qui est possédée par la vérité, compte ses sous, on compte ses relations, on fait l'inventaire de tout ce qui est de nous, et on met sur sa carte de visite toutes ses relations, et autant que possible des belles relations. C'est petit bourgeois, ça. C'est la grenouille qui s'enfle et qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Comme elle ne sera jamais bœuf, elle doit s'enfler. Et elle ne rejoint jamais. Vous voyez, c'est cette espèce d'orgueil intellectuel. On n'accepte que ce qu'on a découvert nous-mêmes. Et on fait l'inventaire de ce qu'on a découvert. Le vécu. Le vécu de l'intelligence. Le vécu de l'intelligence n'est pas la vérité. Sur soi et de regarder uniquement le vécu fait que je reste dans mes limites. L'intelligence, en posant la question existe-t-il un être premier, l'intelligence expérimente sa noblesse. Elle est capable d'affirmer l'existence d'une réalité qu'elle n'appréhende pas, dont elle n'a pas l'expérience. Et donc l'intelligence touche à ce moment-là sa noblesse suprême.
Respecter des petites réalités infinies.
à nous, mais elles existent. C'est pas moi qui les ai faites. Je n'ai pas fait l'univers. Je n'ai pas fait le petit caillou. Ah, j'essaierai d'en faire des petits cailloux. J'essaierai d'en faire très semblables, mais ce ne sera pas la même chose. J'essaierai de faire des fleurs très semblables. Et tout le monde se dira, oh, c'est tout à fait les mêmes choses. Non, ce n'est pas les mêmes. Respectez la réalité existante qui n'est pas moi, qui est autre que moi, et que je n'ai pas fait, et qui est antérieure à moi. Et parmi ces réalités antérieures à moi, il y en a une cachée, souterraine, qui est au-delà de toutes les autres. Voyez, s'il n'y a pas ce respect à l'égard de l'autre, mon intelligence s'enferme sur elle-même. Et c'est la grandeur de l'interrogation. Existe-t-il une réalité qui est plus grande ? Là, l'intelligence se met dans un état de noblesse unique. C'est pour ça que j'insiste sur cette expérience à la fois interne et externe. Elle est interne. C'est une soif de vérité. Et donc il faut une très grande soif de vérité. Et cette très grande soif de vérité s'incarne, se réalise dans cette interrogation. Donc, expérience interne de vérité, de soif de vérité. Et expérience externe, c'est que la vérité, c'est une réalité extérieure à moi. La distinction entre vérité et sincérité. La sincérité, c'est exploiter tout ce que je connais. C'est gérer mon bien. Ça, c'est la sincérité. Et de bien gérer mon bien. Mais vous comprenez très bien que gérer le bien de votre vie intellectuelle, c'est vous mettre dans la situation de quelqu'un qui ne pourra jamais poser l'existence d'un être premier, puisque vous n'êtes pas l'être premier. Et vous le savez, puisqu'à côté de moi, il y en a un qui existe aussi, et qui n'a pas de raison de ne pas dire qu'il est l'être premier, comme moi. Donc je ne suis pas l'être premier. Je le sais. Vous voyez, cette espèce de vérité interne, de loyauté interne, qui permet de poser la question. Dès que j'ai posé cette question, vérité que je possède en moi, limitée, vérité de la réalité que je cherche, ça devrait distinguer, et je dois le faire, et Aristote l'a fait avant saint Thomas, la vérité qui est la réalité, et la vérité qui qualifie mon intelligence. Et j'accepte que la vérité qui qualifie mon intelligence est toute relative à la vérité qui est dans la réalité. Oui, je retrouve la dualité dont je parlais hier, Entelekeia, Energeia. Entelekeia, c'est la vérité qui qualifie mon intelligence. Energeia, c'est la vérité qui est la réalité qui existe et qui mesure mon intelligence et qui est capable de mesurer mon intelligence. Je me sers maintenant principe de finalité dans mon esprit, dans mon intelligence. Il y a une soif de vérité et je sais que je suis possédé par une vérité qui n'est pas la vérité totale parce que je ne l'atteins pas directement. Je ne peux pas l'appréhender. Je ne peux pas la saisir directement. Je ne peux pas me l'assimiler. Je n'ai pas de concept de cette vérité. Je dois accepter d'être en dessous de cette vérité et de ne voir que l'ombre de cette vérité. et son acte. Et illuminant cette expérience par le principe de causalité finale au niveau de l'esprit, toute vérité qui est en moi, qui qualifie mon intelligence, est ordonnée à une vérité première, à une vérité qui est la réalité. Alors, mon expérience, illuminée par ce principe de finalité, s'ouvre grâce à ce principe. Mon intelligence s'ouvre à cette vérité première, puisque en moi, il y a cette vérité dans cette recherche, dans cette interrogation. Mon intelligence s'ouvre à cette vérité première. Vous voyez, je pourrais dire ceci, il faudrait bien le comprendre. Puisque je me pose cette interrogation, et que toute interrogation au plan philosophique est l'analogue de l'hypothèse en science. Donc, je fais cette hypothèse, est-ce que Dieu existe ? J'ai le droit. Est-ce qu'il existe une réalité première ? Eh bien, cette interrogation exige la présence d'une vérité première. Ça, c'est extraordinaire. Vous allez me dire, mais alors vous êtes dans l'ontologisme le plus parfait. Vous passez l'interrogation, vous êtes dans l'intentionnalité et vous posez la réalité. Or, c'est ce que vous cherchez dans une pétition de principe. Pas du tout. Pas pétition principe. Je distingue parfaitement mon interrogation. Mon interrogation, c'est l'interrogation de l'homme. C'est pas une interrogation n'importe laquelle. C'est l'interrogation de l'homme dans ce qu'elle a de plus fort. Et donc, elle s'enracine dans l'expérience. C'est mon intelligence d'homme. Et mon intelligence d'homme pose cette question. J'existe, moi. Et mon intelligence existe. Et c'est mon intelligence qui existe qui se pose cette question. Existe-t-il une vérité première ? Un être premier qui est la vérité. Et je découvre cette vérité grâce au principe de finalité. Cette interrogation est porteuse de la vérité première. Vous voyez, c'est très impressionnant, cela. Évidemment, je suis sur une crête, hein, ça. Mais je dois toujours être sur une crête pour que mon intelligence s'ouvre à une réalité plus grande qu'elle et qu'elle reconnaisse que cette interrogation, tout le poids de cette interrogation, affirme l'existence d'un être premier. Toute l'existence de cette interrogation affirme l'existence d'un être premier. Pas par elle-même, mais grâce au principe de finalité. Le principe de finalité dans l'intelligence, c'est que toute vérité philologues. Les Allemands aiment énormément la philologie et ils identifient facilement philologie et philosophie. C'est la philosophie du langage. Alors il dit, ah, l'étéia, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? C'est l'étéia, on est caché, c'est la manifestation. Je supprime ce qui est caché. C'est beau du reste. Mais la petite erreur, vous voyez, c'est qu'on fait de la vérité la manifestation de la vérité. La manifestation de l'être. Alors c'est pas ça. C'est la réalité qui est vérité. Au sens profond. Alors, Heidegger dit, quand il regarde l'histoire de la philosophie grecque, il dit qu'il y a un moment où les Grecs ont perdu le sens de la vérité. Et c'est Aristote, pauvre Aristote, il a perdu le sens de la vérité parce qu'il a regardé la vérité avant tout dans l'intelligence, dans la proposition. Cette proposition est vraie. Mais il oublie qu'Aristote maintient l'autre vérité et qu'Aristote a distingué la vérité qui s'identifie à la réalité, qui est l'intelligibilité même de toute réalité existante, et la vérité qui qualifie l'intelligence. Autrement dit, la distinction, ce que je disais tout à l'heure, entre entelekeia et energeia se retrouve du côté de l'intelligence. C'est intéressant, parce que Heidegger a touché là un problème devant lequel il s'est heurté, alors qu'il aurait pu comprendre que ce problème qu'il touchait l'aurait libéré. Alors Heidegger dit, l'intelligence humaine ne peut qu'attendre la révélation de la vérité première. Vous voyez, il identifie là la recherche métaphysique de l'être premier et le problème de la foi. C'est pas étonnant. Heidegger a louché sur Luther à la fin de sa vie. Et quelqu'un qui connaît très bien la philosophie heideggerienne m'a dit que cette déviation vers Luther, alors qu'il était baptisé catholique, cette déviation vers Luther a bloqué sa recherche intellectuelle. Oui. Et c'est pour ça, pour lui, l'intelligence humaine ne peut qu'attendre la révélation. Dieu ne peut que se révéler. Mais mon intelligence humaine est incapable de se dépasser. Et c'est cela qu'il n'a pas compris. Pourquoi ? Parce qu'il a identifié appréhension et jugement. Je peux aller plus loin dans la découverte de la vérité que mon appréhension. Je peux très bien dire, je n'appréhende pas Dieu. Je ne le conceptualise pas. Appréhender, c'est conceptualiser. Je ne peux pas le conceptualiser, mais je peux affirmer qu'il existe. Et en affirmant qu'il existe, mon intelligence touche l'existé de Dieu. C'est ça qui est admirable. Vous voyez, ce n'est pas une conclusion de quelque chose qui est extérieur. C'est la conclusion d'une réalité qui est plus proche de mon intelligence que mon intelligence qui réfléchit sur elle-même n'est proche d'elle. Et donc en affirmant l'existence d'un être premier, d'une vérité première, à partir de cette recherche de la vérité, à partir de ce fait que mon intelligence a soif d'être possédée par la vérité, je conclus, il existe nécessairement un être premier qui est la vérité. En affirmant cela, mon intelligence touche, sans l'expérimenter, l'être premier, la vérité première. Elle la touche dans l'obscurité, puisque C'est ça qui montre la noblesse de cette voix. Mais c'est plus difficile intellectuellement de bien saisir cela que par le point de vue de l'amour. C'est vrai, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus lumineux. C'est la crête. Je comprends très bien que si je veux découvrir l'existence de Dieu, c'est-à-dire si le Dieu caché doit devenir évident pour mon intelligence, puisque c'est ça, découvrir Dieu. Mais d'une évidence qui dépasse une illumination. Une évidence qui est une proximité dans l'adhésion. Mais ce n'est pas une illumination. Je ne suis pas illuminé. Je dis, ça ne peut pas être autrement. Et donc c'est une certitude métaphysique la plus forte qui soit. Être autrement serait renier assume-la. Autrement, j'ai une substance, je ne sais pas, dans un métal particulier, qui ne serait pas moi. Si je suis pétri d'argile, je ne suis pas pétri à partir de le petit maçon du dentiste. Parce que le dentiste est maçon. Je connais un merveilleux dentiste qui se dit maçon. Le métier du dentiste est d'être maçon. Il répare les murs et les trous dans le mur. C'est pas moi, ça. Moi, c'est mon corps. Et mon je suis implique mon esprit et mon corps. Il est limité. Et donc, si mon je suis est limité dans son être,
secondaire. Donc la
la seconde voie, vous voyez, c'est la réflexion, l'expérience du « je suis », de mon autonomie dans l'être et de ma limite dans l'être. Ce qui m'oblige, si j'illumine cela avec le principe de finalité, de poser tout de suite l'absolu dans l'être, d'un être qui est « je suis » d'une manière absolue. Et qui montre son autonomie absolue. Et là encore, quand je saisis cela, je vois que ce je suis absolu n'est pas extérieur, puisque il est au contraire plus intérieur. Mais je ne peux l'affirmer pleinement que lorsque je vois que ce « je suis » est cause de mon « je suis », est cause de mon âme. Alors à ce moment-là, je peux découvrir sa présence d'immensité. Et je découvre que mon « je suis » est présent dans cette présence d'immensité qui est celle de Dieu.